Qu'allez-vous faire ? Alors, je suis venu ce matin avec, les dames connaissent, les messieurs un peu moins, hein, pas j'espère. Qu'est-ce qu'on fait avec ? Qu'est-ce qu'on fait ? On se regarde, on dit miroir, qui est la plus belle, non, c'est ça ? Ou qui est le plus beau ? Et on fait quoi ? Non, on va pas aller dans l'épître de Jacques, non ? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec un miroir ? On se maquille, ouais. On regarde, on examine, on dit tiens, il y a un truc, n'est-ce pas ? Regarde, chérie. Alors, vous allez comprendre. Romains chapitre 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Que faisons-nous ? Que faisons-nous ? Question. Pour être conformes à l'image de Jésus-Christ. Que faisons-nous chaque jour ? Vous savez qu'on prend énormément soin de notre peau. On prend soin de ceci, on prend soin de cela. Mais là, il y a un texte qui nous interpelle, mes amis. Et qui m'a interpellé. À savoir, Dieu m'a appelé. C'est ça veut dire, hein ? Il m'a appelé, il m'a prédestiné, il m'a destiné à être semblable à l'image de son Fils. Ça veut dire que quelque part, j'entends l'appel et je dis, je vais faire quelque chose pour être semblable. La plus grande chose, c'est Jésus qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. On est bien d'accord. Mais la deuxième partie, mes amis, la partie qui va derrière, elle repose sur chacun de nous. Être conforme à une image. Aujourd'hui, la majorité des jeunes veulent être conformes à l'image de ceux qu'ils idolâtrent. Des stars, des footballeurs, de ceci, de cela. Et alors on achète les vêtements de la star, on essaye de se coiffer comme la star. On essaye de lui ressembler, on n'a pas son salaire, mais... Mais on a un grand défi, nous chrétiens, c'est d'être conformes à l'image de Jésus-Christ. Et pour cela, il y a du travail. Si à chaque fois que je passe, je regarde ce miroir et je me dis, ouais, là, je vois Jean-Claude, là, il est un peu grognon ce matin. Oh, il est pas bien. Oh, il est même en colère ce matin. Comment est-ce que ça peut changer ? Comment est-ce que chaque jour, je peux faire quelque chose à cette vie pour embellir la vie que Dieu m'a donnée ? Afin que le monde le voit. Afin que ceux qui m'entourent réalisent la réalité de la transformation de Christ. Vous n'êtes jamais posé cette question ? Moi, je vous invite à relire Romains 8, 29 et de vous dire chaque jour, qu'est-ce que je peux faire pour être conforme à cette image ? Qu'est-ce que je peux faire, non pas pour aider Dieu, parce que Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide, mais afin que ce qu'il m'a donné, je puisse en faire quelque chose qui soit à son image, quelque chose de bien. Dieu m'a donné la vie, m'a donné ce qu'il avait de plus précieux. Imaginez quelqu'un qui vous donne un grand... Au mois de décembre, je m'étais arrêté dans une bijouterie, j'attendais Becky, et je m'étais arrêté dans une petite bijouterie, je regardais comme ça, et puis le monsieur, un des vendeurs qui vient et me dit... Il y a quelque chose qui vous intéresse. Alors, j'étais juste devant la vitrine où les choses les plus chères étaient. Je fais, oui, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Parce que sûr, je les achèterai pas. Il me dit, si vous voulez, j'ai aussi des lingots d'or à vendre. Je dis, bah écoutez, je reviendrai demain. Mais Dieu nous a donné plus que de l'or. Dieu nous a donné plus que de toutes ces choses qui vont disparaître. Il nous a donné un bien tellement précieux que personne, personne ne peut nous le prendre. Mais un jour, ce bien précieux aura des dividendes, des rapports, des intérêts dans le ciel entier, mes amis. Dans le ciel entier. Et pour cela, Dieu attend que ce bien précieux qu'il m'a donné, je l'embellisse. Je l'améliore. C'est pas l'image de ma peau, mais c'est l'image de mon âme. Ce qu'il y a dedans. C'est ça ce bien précieux. Nous engageons la réflexion pour les prochains mois, on vous l'a annoncé dimanche dernier, afin de devenir membre. Alors on l'est de fait, membre. À partir du moment où nous acceptons Jésus-Christ, à partir du moment où nous marchons avec Christ, nous sommes membres les uns des autres. D'accord ? Ça c'est la réalité céleste. Maintenant, membre d'une association, membre d'une organisation, ça explique quelque chose. Ça amène quelque chose et on a commencé une série d'enseignements qui nous rappellent les bases, les fondements sur lesquels nous avons bâti notre foi. Mais ce n'est pas simplement ça. C'est pas une question de situation, de vie, de volonté, mais cela touche trois domaines. Et ce matin, je veux juste brièvement les aborder. Le savoir être et le savoir faire. Être chrétien, c'est savoir être et c'est savoir faire. Si je sais comment je pourrais aimer et que je ne fais pas. Si je fais, mais je ne sais pas. Si j'essaye de faire sans être, je ne peux pas. Alors, question. Je l'ai déjà posé tout à l'heure, puisque nous sommes appelés à ressembler à Christ, qu'allons-nous décider aujourd'hui pour lui ressembler ? Notre grand défi, c'est de disparaître pour être comme Christ. Si tout à l'heure j'ai parlé de Daniel Bordreuil, c'est que il y a 23 ans, 24 ans, quand je suis venu dans cette union d'église, lui et moi, on était les deux extrêmes. Il était le président, un homme bardé de diplômes, d'une connaissance incroyable. Et moi, j'étais le petit paroissien qui essayait de devenir grand, qui aspirait à avancer dans le royaume de Dieu. Et à chaque fois qu'on me parlait d'aller voir quelqu'un, d'aller voir le président, je disais, ce monsieur-là, il est inabordable. C'est l'homme d'État, c'est celui qu'on ne croise jamais. Et un jour de juin 1989, mon téléphone a sonné. Et la voix de Daniel a résonné. Jean-Claude, voudrais-tu venir faire un stage dans mon église ? À Orly ? Avec vous ? J'ai pas dit non, mais mon cœur brûlait de dire non. Parce que c'était improbable que ce que j'étais puisse coller avec ce que lui attendait. Et si aujourd'hui je suis serviteur de Dieu, c'est parce que pendant ces 9 mois, il a réussi à m'apprendre ce qu'était un serviteur de Dieu. Et je crois que si notre vie repose sur Jésus-Christ, notre vie repose sur le modèle qu'on prend des autres, sur ce qu'on apprend des autres. Comment on influence les autres? Et si aujourd'hui nous sommes appelés à ressembler à Jésus-Christ, nous ne sommes pas appelés à ressembler aux hommes, mais nous devons devenir ces hommes et ces femmes d'influence. Peut-être nous n'entendrons jamais d'éloges sur notre sujet, Et pour ma joie, j'ai pu parler très longtemps. J'ai pu devenir son adjoint, devenir son, plus que son stagiaire, son adjoint, son remplaçant, son chef. Celui qui a pris sa relève et celui qui a marché avec lui pendant toutes ces années au bénéfice. Mes amis, plaise à Dieu qu'un jour, sur toute la terre, dans une église, quelqu'un parle d'un d'entre vous ou de chacun d'entre vous pour dire un jour, il m'a influencé dans ma vie chrétienne. Il m'a amené un pas plus loin. Alors, on va lire dans Marc 8, un exemple. L'exemple de Monsieur Pierre. Pas Pierre Manguet. Bien qu'il ait bien réfléchi à Monsieur Pierre, Pierre Manguet. Pierre, Marc 8, verset 29. Mais vous, leur demanda-t-il, c'est Jésus qui parle avec ses disciples, qui dites-vous que je suis ? Oh, Pierre lui répondit tout de suite, tu es le Christ ! Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire à personne ce qui le concernait. Il commença, Marc 8, 29, hein, il commença alors à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, qu'il soit mis à mort, qu'il ressuscite trois jours après. Il disait ces paroles ouvertement. Pierre le reprit à part et lui fit des reproches. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples. Il fit des reproches à Pierre et lui dit « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Que donnerait-il ? Que donnerait un homme en échange de son âme ? En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Nous avons là un test. Un test auquel on va essayer de répondre ensemble ce matin. Je sais qu'il est un peu tard, mais je vais essayer de garder votre attention. Que pensent les autres à propos de Jésus ? C'était la question. Qui dit-on que je suis ? Que sais-tu, toi, à propos de moi ? Que penses-tu ? Il y a une différence. Que sais-tu ? Et que penses-tu ? Quatrième question, que veux-tu ? Où vas-tu ? C'est intéressant qu'une seule question, un seul texte nous amène à réfléchir sur tous ces points-là. L'entretien qu'il avait avec ses disciples, ceux qui le connaissaient, ceux qui avaient décidé de tout lâcher pour le suivre, commence par une question. Et les autres, à propos, vous savez ce qu'ils pensent de moi ? Alors, réponse. Savoir. On répond à la question savoir. Verset 28-29, Marc 8. J'ouvre maintenant ma Bible parce que je n'ai pas mis le texte à l'écran. Marc 8. Verset 27-28. Qui dit-on que je suis ? Il répondit, Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, l'un des prophètes. Le monde ne connaît pas Jésus-Christ. N'est-ce pas ? Mais nous ne le connaissons pas plus qu'eux avant. On connaît ou on a entendu parler de Dieu. Quelqu'un qui dirige l'univers. Peut-être. Quelqu'un qui s'occupe qui est un peu le tiroir caisse qu'on peut consulter de temps en temps, comme le loto, vous savez, de temps en temps on gratte et puis voilà. Tu es Jean-Baptiste, un prophète. Il y a des religions dans le monde qui pensent que Jésus est un prophète. Les autres, tu es Élie, un homme de l'Ancien Testament, revenu ou bien conservé en tout cas, si tu dates de l'Ancien Testament. Le monde ne connaît pas Dieu. Le monde peut-être aspire à connaître Dieu. Mais en tout cas, ils ne le connaissent pas, ils ne le voient pas. Et Dieu a utilisé une chose extraordinaire, il fait un miracle extraordinaire tous les jours, c'est que dans le monde, il a placé des chrétiens. Dans le monde, il a mis des chrétiens. Des gens qui, on l'a vu dans Romains 8, 29, sont l'image de Jésus. Oh. Donc, ces 12 disciples ont entendu la foule. Et la foule dit, Jésus, c'est un prophète, c'est quelqu'un d'historique, de l'Ancien Testament, c'est un revenant, c'est quelqu'un dont on parle, quelqu'un d'inatteignable, c'est quelqu'un de méchant, vous avez vu toutes les misères dans le monde, ah, si Dieu existait. En vrai, d'abord il n'existe pas. Alors on va s'arrêter sur le verset 29. Et vous ? Vous ne trouvez pas là ? Moi je trouve la question surprenante. Jésus est celui qui les a appelés. D'accord ? Vous vous rappelez de ça ? Vous connaissez l'écriture quand même. Il leur a dit, lâchez tout ce que vous avez, suivez-moi. Ok. Et puis au bout d'un temps, il leur dit, vous savez qui je suis ? Non, c'est un peu surprenant, quoi. C'est comme si le capitaine d'une équipe, au bout d'un moment, il demande à ses joueurs, vous me connaissez ? L'autre jour, on était à une réunion à Paris pour le diplôme de Charlène, et il y a un monsieur qui traverse la salle et qui vient nous voir, qui avait vu Charlène à côté de nous. Il traverse la salle, il vient, il me serre la main, il me dit, est-ce que vous savez qui je suis ? Alors, j'ai dit, non. Alors, il me donne son nom. Il me dit, ça vous dit toujours rien ? Non. Il regarde Charlène, il dit, bah t'as pas parlé de moi à ton père ? Non. T'as honte de moi ? Non. Et c'était le directeur de tout le groupe de toutes les écoles de commerce de France. Je fais, non, elle m'entretient pas trop sur les relations qu'elle a avec vous. Je peux pas le connaître, cet homme. J'aurais pu éventuellement savoir dans un papier qui il était. Mais notre Seigneur, c'est pas celui qu'on lit juste dans le papier. C'est pas le chef de tous les croyants. C'est plus que ça. C'est mon Seigneur, mon Maître. C'est celui qui a fait sa résidence en moi. Et c'est intéressant. Moi, je trouve pertinent qu'à un moment, Jésus, il ose demander à ses disciples, et vous, ceux qui me suivaient, ceux qui font des miracles en mon nom, ceux à qui je montre tellement de choses, qui dites-vous que je suis ? Et là, tout de suite, la réponse fuse. Pierre, le premier de la classe. Hein, tu es Christ, je le sais. C'est intéressant, ils ont tout de suite la réponse. Ils ne savent pas trop ce que ça veut dire, mais ils ont la réponse. Et moi, je trouve que dans le personnage, je m'identifie bien à Pierre. J'avais un ami à l'école, pendant 3 années, on s'est suivi à l'école, et à chaque fois qu'il y avait une question, ah ! Je sais. Et souvent, pendant qu'il levait la main, il réfléchissait à la réponse parce qu'il la savait sûrement pas. Mais il voulait répondre. Ah, je sais. Mais ça faisait pas de lui le meilleur élève de la classe. Et moi, Pierre, je dis toujours, c'est pas le premier de la classe. C'est pas le premier de cordée. C'est un peu un dynamiteur. Quelqu'un qui va explorer le terrain. Mais il répond, tu es le Christ. Et là, la réponse est forte. Parce que pour des hommes du Nouveau Testament, comprendre qu'il était le Christ, c'était réaliser qu'il était celui qui était annoncé dans tout l'Ancien Testament. Donc là, il n'a pas simplement dit « Je suis, tu es celui que je suis depuis quelque temps, tu es celui pour qui j'ai tout abandonné, tu es le Christ, loin de Dieu, oriente, celui qui est venu pour me sauver. Il a la bonne réponse, non? On lui aurait donné un 20 sur 20 à Pierre. Mais on va voir que par la suite, ça se gâte. La note va tomber un peu. Il a la bonne réponse. On n'a pas... Ce que je trouve intéressant, c'est que les 11 autres, ils se rangent derrière la réponse de Pierre. Il a répondu pour nous. C'est le syndicaliste, hein. C'est le... Alors, derrière, si tu es le Christ, il aurait dû savoir quelque chose avec la réponse. Parce que dans l'Ancien Testament, bien sûr dans le Nouveau Testament, mais il ne l'avait pas encore lu, Pierre, le Nouveau Testament, il annonçait que celui qui allait venir loin de Dieu allait souffrir et mourir. Et là, Pierre, alors là, je ferai en sorte que tu ne meurs pas. Parce que ça, c'est trop dur. Si Dieu nous a... T'as vu, on est 12. Et alors là, t'inquiète pas, si on vient te chercher, on sera là. Hein, on connaît la suite de l'histoire. Il n'y en a pas un qui reste là. Quelle est la réponse? Il leur disait ces choses ouvertement. Hein. Il fallait qu'il soit rejeté, qu'il fût mis à mort, qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et là, Pierre dit, ah non! Mauvaise réponse. Il savait, regardez bien, il savait, mais dans le savoir-être, il ne savait plus. Et souvent, on a la réponse. On sait ce qu'il faut faire, mais on ne le veut pas. Non? Et là, il dit au Seigneur Jésus, je ne peux pas admettre que tu meurs. Je ne peux pas admettre. Est-ce que si quelqu'un nous dit « je vais souffrir, je vais être maltraité », on le laisserait faire? Non. Sa réaction, elle est normale. On ne va pas le blâmer. S'il avait été écrit « je vais souffrir avec les disciples », il dit « bah, c'est bien, t'as autre chose à nous dire ». La réponse de Pierre, elle est humaine, il parle avec son cœur. Il parle comme nous, enfin j'espère. Il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Vous imaginez? Moi, j'imagine, il y a ces 23 ans, rentrer dans le bureau de Daniel Bordreuil, alors qu'il m'avait demandé quelque chose, et de lui dire, « Dis donc, Daniel, ce que tu m'as demandé, c'est pas correct, et puis ce que tu veux faire, ça va pas bien du tout. » Je pense que le stage se serait terminé là, que je serais reparti rapidement d'où je venais, et Daniel Bordreuil, c'était pas Dieu ni Jésus-Christ. Mais c'était mon chef. Et j'imagine Pierre, dans son zèle, aller voir celui dont il venait de dire « Tu es l'envoyé de Dieu, tu es le fils de Dieu, tu es le sauveur de l'humanité, mais tu sais, le plan de Dieu bouge pas, je vais le changer. » Et là, la réponse, elle fuse. Non? On la trouve pas un peu sévère. La réponse de Jésus? Oh! Vous auriez aimé entendre ce qu'il a répondu? Arrière de moi, Satan! Oh! Moi! Mais je connais la réponse! Mais t'as vu, je sais que... Non mais attends, j'ai changé d'équipe! Il y avait le mercato! Hein? J'étais acheté! Pierre s'inquiétait humainement. On a du mal à comprendre les choses humainement, n'est-ce pas? On veut que ça soit mieux, que ça soit moins dur, moins difficile. On développe tout ce qui est contre la souffrance, n'est-ce pas? Et c'est humain. Mais regardez le verset 34. « Puis en arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Pourquoi j'ai pris ce verset de Romains 8, 29, mes amis? C'est parce que nous devons être transformés de jour en jour. Et ça ne se fait pas comme ça. Et il faut du temps. Il faut du temps pour écouter, il faut du temps pour comprendre, il faut du temps pour avancer, il faut du temps pour être transformé. On a changé de destination, mais la transformation se fait jour après jour. Mais il faut le décider. Si on a juste le ticket d'avion, si on a juste l'assurance d'y être, à un moment il va se passer quelque chose. Et là Jésus va donner la ligne de conduite. Après avoir été, on va dire, bien sévère. Il dit, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile. La vie d'un chrétien n'est pas une vie faite de pétales de roses. Mais s'il reste quelque chose des roses, c'est bien plutôt souvent les épines. N'est-ce pas? Est-ce que ça fait plus mal de ramasser des épines ou de ramasser les pétales? Si vous avez... Moi j'ai des petits rosiers devant la maison. Je laisse à Becky le soin de s'occuper des rosiers. Non. C'est parce que moi je suis pas du tout jardinier. Si c'est moi qui vais m'occuper des rosiers, je m'en occuperai une fois. Et après on mettra autre chose. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Car, et là il donne la leçon à Pierre, celui qui voudra sauver sa vie, celui qui renoncera, cette épreuve-là, je n'en veux pas. Je veux pas la courir. C'est pas facile, n'est-ce pas? Si Dieu, il a un chemin pour nous, s'il a une voie pour nous, on voudrait bien prendre des raccourcis, n'est-ce pas? On voudrait bien que notre GPS nous donne la voie de sortie. Mais Dieu dit, c'est par là que ça se passe. Car celui qui voudra sauver sa vie, là, perdra. Et celui qui la perdra à cause de moi, de la bonne nouvelle, regardez bien, la sauvera. Voilà la transformation, voilà l'image que Dieu attend. C'est que moi je meurs pour que Christ vive dans ma vie. Et là, c'est pas juste un petit défi, c'est ou perdre ou gagner. Vous vous rappelez Josué 24? Vous devez décider qui vous voulez servir. Le monde, Satan, ou Dieu. Si vous voulez aller au ciel, ou si vous voulez aller en enfer. Beaucoup me diront, nous avons fait plein de miracles en ton nom. Et Jésus leur dira, je ne vous ai pas connu. Savoir être, savoir faire, c'est un entier. Et là, Pierre l'a appris. Mais on sait que par la suite, Pierre n'a pas été disqualifié, n'est-ce pas? Mais j'imagine que la phrase de Jésus a dû le mettre un petit peu dans les brancards. Un peu comme le boxeur un peu sonné, hein? Tu m'as appelé comment? Celui qui voudra me suivre devra renoncer. Nous ne renonçons pas facilement à ces choses de ce monde, à la gloire, à l'honneur, à nos idées, à nos a priori, à nos rancunes, à nos fâcheries. On a tellement de mal à abandonner ça. Et pourtant, tous les jours, on prie, Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Ah, vous connaissez le texte. C'est intéressant, on connaît bien le texte. Hein? Ouais. Mais là, droit dans les yeux, on le vit. C'est intéressant, des fois on a des conversations avec des gens avec qui on a eu des petits problèmes. Il y a 15 ans, 20 ans. Tu te rappelles? Ah, je me rappelle d'un truc. Ah, tu te rappelles, c'était... Ah ouais, je me rappelle, c'était en juillet. Alors, attends, ça devait être en 72. Ouais, c'était un matin, tu étais venu. Et alors, tu m'as fait une crasse. Attends, je croyais qu'on avait...
Non, non, mais j'ai oublié, hein.
Ah bon? Ah, t'as pas enlevé la barrette mémoire, hein. Si tu t'en souviens ce matin. Si tu t'en souviens ce matin, c'est que c'est pas réglé. C'est que c'est pas réglé. Mes amis, on trimballe tellement de choses. Mais on veut que la vie soit facile. Et Pierre, c'est ce qu'il voulait, c'était que la vie soit facile. Il savait, Pierre, mais il avait tellement de difficultés à pratiquer. Il vivait avec son cœur, sa passion, sa vie. Et pourtant, hein, c'est lui quand même qui va conduire 3000 personnes à Jésus-Christ. Alors qu'il a même renié son Christ. Celui dont il était tellement sûr que c'était le Messie. Il avait un... C'est bizarre parce qu'il a dû avoir un petit problème d'Alzheimer à un moment, Pierre, parce que quand Jésus lui dit qu'il devait être condamné, mourir, et que le jour de sa crucifixion, il dit « Je sais même pas qui c'est ». Mais il avait oublié la réponse d'avant. Il avait la bonne réponse, mais il n'a pas ouvert le bon tiroir. Mes amis, tout ça pour dire quoi? Pour dire que nous savons. Nous l'avons la bonne réponse. Par contre, la mise en pratique, c'est plus difficile, n'est-ce pas? Grandir tous les jours avec Jésus-Christ. Et vous avez vu les versets 35 et 36? Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils d'Homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Est-ce qu'on a honte d'être chrétien? Est-ce qu'on a honte de prononcer le nom de Jésus-Christ, d'annoncer ses valeurs dans ce monde? Ça va devenir compliqué, mes amis. Les votes actuels vont nous rendre la vie un peu plus compliquée qu'avant. Mais Jésus-Christ sera là et sa grâce sera là, j'espère, pour nous aider à cheminer. Éphésiens chapitre 2 nous dit ceci. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle du monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. C'est version parole vivante. Nous aussi, nous faisions aussi tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs, l'homme livré à eux-mêmes, et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais Dieu. Ah. Dieu nous a changés. Mais nous étions exactement comme ces gens-là. On n'aime pas les choses de Dieu. On a la bonne réponse, mais pas la pratique. Le but clairement expliqué par la Bible est que tous les croyants ne vivent plus selon leur nature charnelle, mais évoluent en étant animés de la vie divine. Cela est seulement possible lorsque le converti accepte de façon déterminée de se donner au Seigneur et de mourir à lui-même, afin que Dieu agisse et opère les changements et transformations nécessaires et souhaitables. C'est une façon déterminée. Oui, si Zachée était resté dans son arbre, qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu. Et il a été chez lui. Et il a reçu Jésus-Christ. La Bible dit, hein, je me tiens à la porte et je frappe. Mais il faut que je décide de façon déterminée, je veux être conforme à la parole de Christ. Pas juste avoir la réponse là, mais que ma vie soit conforme. Et pour ça, Dieu a donné l'Église, les frères et sœurs, ceux et celles à qui j'ai dit tout à l'heure, je t'aime de l'amour du Seigneur, parce que j'ai besoin de toi. C'est pour ça que l'Église existe, et c'est pour ça qu'on veut essayer de progresser cette année, non pas simplement sur la connaissance de cette confession de foi, mais sur la mise en pratique. Savoir être un chrétien, ça veut dire quoi? Et comment transmettre la parole de Dieu ensemble? Savoir, savoir-être, savoir-faire. je dois me mettre d'abord à l'écoute. Vous savez, une chose que je trouve toujours extraordinaire quand je lis les évangiles, c'est que notre Christ, il avait une vie équilibrée, une vie faite de compassion, il regardait les gens, une vie faite de miséricorde, il répondait aux besoins des gens. Et quand il devenait trop pressant, il se mettait à part et il allait écouter la voix de son Père. Regardez, donnez, écoutez. Mais la première des choses que je nous ai rappelées sur cette petite diapo amusante, c'est d'abord d'écouter. Écouter ce que Dieu veut nous dire. La deuxième chose que les disciples ont fait pendant ces 3 années, c'est de regarder attentivement. Et on a besoin de nous regarder. De devenir des modèles. Est-ce que notre vie est un modèle? Est-ce qu'on peut dire à nos frères, nos sœurs autour de nous, je suis un modèle? Non pas d'orgueil, mais parce que j'ai laissé ma vie à Christ. Alors ce que tu vois chez moi, j'aimerais que Dieu le fasse dans ta vie. Est-ce qu'on peut dire ça à notre voisin? Regarde-moi, j'ai abandonné ma vie dans la vie de Christ. Là, ça devient un peu plus compliqué, hein? Regardez. Et regardez, là, j'ai pris cette image, j'espère que ça ne choquera personne, mais il y en a un qui tient la brouette et l'autre, mais on s'accompagne dans la difficulté. Il y a une chose que Jésus a dit, hein, on se le rappelle, que Dieu sera toujours avec nous. Il ne nous laisse jamais nous débrouiller seuls. Dans toute difficulté, dans tout problème, même si on dit « Seigneur, où es-tu ?» il dit « Mais je suis là ». Je crois que j'ai raconté déjà cette histoire, mais un jour, un bûcheron avait plein d'arbres à couper. Et c'est souvent notre vie chrétienne. C'est pour ça que j'aime cette histoire. Il y a plein d'arbres à couper, plein de choses à faire. Alors il se dit, il avait qu'une pauvre scie à main, et il se disait, mais tous ces arbres à couper avec une scie à main, je ne vais pas pouvoir. Alors il descend au village, et il dit, je vais acheter une scie électrique. Il paraît que ça marche tellement bien. Alors il va, il prend la meilleure, il demande au marchand, il dit, je veux la meilleure scie électrique que vous ayez. Alors le monsieur lui dit, voilà, ça c'est pas électrique, même à essence. Il dit, voilà, ça, c'est la meilleure. Très bien. Alors il remonte, et puis au bout de quelques jours, il redescend, il a des bandages aux mains, il est complètement écroulé. Il vient voir le monsieur, il jette la scie comme ça, il dit, ça marche pas votre scie. Ah bon, il dit, attendez. Il dit, moi je suis blessé de partout, j'ai coupé 3 arbres en 3 jours, là, ça marche pas. Alors le monsieur, il dit, mais c'est pas possible. Comment ça marche pas? Alors, le monsieur explore le moteur, il regarde, il dit non, il n'y a rien de bouché, et puis il tire la manette, il démarre la machine, et il y a le bûcheron qui fait « Oh, mais c'est quoi ce bruit ?» Il ne l'avait pas démarré. On a souvent la réponse. On a souvent la réponse. Par contre, comment ça marche? Je sais pas. Je sais pas. On peut avoir une belle voiture et pas le permis. On peut avoir un bel ordinateur et pas savoir où il s'allume. Mais Dieu nous a donné la vie et souvent on sait pas comment ça marche. Comment la mettre en route? Alors des fois on regarde et on a peur. On dit ça c'est encore moi. C'est pas l'image de Christ. Jésus nous appelle. Jean 10, il dit, mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais. Et elles me suivent. Voulons-nous nous engager? On va en parler cet après-midi. À grandir en Jésus-Christ. À être transformé de jour en jour à l'image de Jésus-Christ. Dans notre savoir, dans notre savoir-être et dans notre savoir-faire. Que Dieu nous conduise, qu'il ne nous laisse pas minimalistes, je sais, mais peut-être comme Pierre, de se mettre devant Jésus et de dire « alors je renonce à moi ». Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier ce matin pour ce que tu as fait pour nous et pour ce trésor qui nous a été offert à la croix, à savoir le pardon pour nos péchés et pour cette vie nouvelle que tu nous as donnée. Seigneur, merci de nous rappeler au travers de la vie de l'apôtre Pierre combien nous pouvons parfois nous égarer dans nos pensées, dans notre façon de croire, dans notre façon de vivre. Et Seigneur, si tu as créé ton Église, c'est pour qu'ensemble nous grandissions, pas simplement en entendant le message, mais en le pratiquant. Alors Seigneur, je veux te remettre ces prochains mois. Tu nous as gardés pendant ces 5 années, tu nous as permis de grandir, tu nous as permis d'échanger, tu nous as permis d'apercevoir, mais nous voulons franchir une nouvelle étape ensemble. Et Seigneur, je veux te remettre cette étape. Tu nous as permis de réfléchir, de prier pour ça. Et maintenant, je veux te remettre le corps de l'Église, les membres, ceux qui ont accepté Jésus-Christ, ceux qui sont peut-être prêts à l'accepter, pour qu'ensemble nous grandissions, pour qu'ensemble ce passage de Romains 8, 29 puisse résonner dans nos vies jour après jour, et pour que nous puissions décider de marcher dans tes voies. Seigneur, aide chacun d'entre nous. Tu sais exactement à l'étape de vie où nous sommes. Tu sais la difficulté, la tristesse pour certains. Mais tu sais aussi, Seigneur, que tu as de grandes choses pour nous. Alors je veux te remettre chaque personne, chaque homme, chaque femme, chaque jeune, puisqu'ils sont avec nous ce matin. Chaque enfant. Et je veux leur donner cette opportunité de marcher dans tes voies. De pas simplement juste savoir, grandir en connaissance, mais grandir en savoir-être, échanger avec les frères et sœurs, pratiquer la vie que toi tu me donnes, et grandir en savoir-faire. Si ce matin, dans votre cœur, quelque chose a résonné, vous dites, c'est vrai, je sais, mais je ne sais pas être. J'ai tellement de mal à pratiquer ce que tu me dis. Je sais être, mais je ne sais pas faire. Je sais pas aimer, j'ai du mal à pardonner. J'ai du mal à comprendre, j'ai du mal à parler de toi. Alors c'est ce qu'on veut faire ensemble, c'est moi, mais je voudrais juste prier avec vous. Prier avec vous pour que nous allions ensemble vers un même pas. Alors si ce matin vous décidez là dans votre cœur, résolument, pas juste parce que je le demande, mais dans votre cœur, d'accepter de progresser avec Jésus-Christ. Que nous le fassions ensemble et que ça soit visible pour la gloire de Dieu. Je vous demande juste là où vous êtes de lever la main pour que je puisse prier pour vous, vous encourager. Oui, oui, il y a déjà des mains qui se lèvent, oui. Que Dieu vous bénisse, oui, oui, oui. Vous avez vu le texte, il a dit, ça ne sera pas un chemin facile. C'est pas tout simplement parce que ce matin vous avez levé la main que les choses vont être plus simples. Mais vous avez demandé à Dieu de vous aider. Et Dieu a mis son Église, là, à Vigneux, pour qu'on le fasse ensemble. Pour qu'on marche ensemble, pour qu'on parle ensemble. Y a-t-il encore quelqu'un qui aimerait que je prie pour lui ou pour elle? Oui? Que Dieu vous bénisse. Eh bien, Seigneur, nous voulons te remercier pour cette parole ce matin qui nous a fait du bien, qui nous a rappelé que c'est toi qui es notre maître. Tu es le Christ. Nous le confessons haut et fort. Mais tu es celui qui nous a sauvés, celui qui habite en nous et celui qui va revenir. Alors sois béni, Seigneur, et bénis toutes ces mains qui se sont levées ce matin, que ce soit pas quelque chose qui reste fermé à ce dimanche matin, mais quelque chose qui se manifeste dans la vie de mes frères et sœurs tous les jours, et que cela soit à ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vais rendre la parole. Je demande pardon d'avoir été un peu long.